franceinter.fr.
Bonjour. Au sommaire de cette édition, surprise, le CETA, c'est d'accord. Les Belges se sont finalement entendus ce matin sur le traité avec le Canada. Beaucoup de bruit pour rien, semble-t-il. Que pensent les policiers? Leur mal-être et leur colère peuvent-ils se dissoudre dans les décisions prises pour eux hier? On attend la suite. À Calais, les derniers bus partent aujourd'hui, mais les vraies difficultés commencent. On est passé ce matin de l'humanitaire au sécuritaire. Un nouveau séisme puissant dans le centre de l'Italie la nuit dernière, pas de victimes, mais des dégâts importants. En 40 ans, la moitié du vivant a disparu sur Terre. C'est le rapport alarmant, évidemment, du WWF. Pour nous en parler en direct, son directeur général France, l'ancien ministre Pascal Canfin. Dans cette édition également, la communauté martyre yézidi honorée à Strasbourg par le prix Sakharov. Les interrogations autour de l'enlèvement de la riche niçoise. Les journalistes d'ITélé qui se battent pour leur indépendance, et puis une femme qui veut que la justice reconnaisse que montrer sa poitrine peut être un geste politique et surtout pas de l'exhibition. Lui, il aime exhiber ses connaissances en météo. Sébastien Léaz, bonjour.
Bonjour Alain.
Du soleil et de la grisaille pour aujourd'hui.
Oui, des côtes de la Manche au Pays de la Loire jusqu'au centre-Val de Loire et à la Lorraine, les nuages bas et nappes de brouillard ont du mal à s'évaporer. Les éclaircies seront aléatoires et hétérogènes. Elles peuvent être localement franches cet après-midi, mais la couche nuageuse restera souvent importante, en particulier au nord de la Seine et dans la vallée de la Loire. On retrouvera aussi des plaques de grisaille persistantes en plaine d'Alsace, autour de la région lyonnaise et au sud de la Garonne. En revanche, partout ailleurs, notamment sur le reste de la moitié sud et du sud Bourgogne aux Vosges, l'après-midi sera plus agréable et très ensoleillé.
Et les températures sont encore de saison.
Oui, les maximales évoluent peu par rapport à hier. Comptez 13 degrés à Metz et Lille, 14 pour Paris, 15 à Lyon et Rennes, 19 à Bordeaux et autour de la Méditerranée, ce sera plus doux. Mais avec du vent, il fera 23 degrés à Nice et Montpellier, 25 à Ajaccio.
Justin Trudeau n'a pas franchi l'Atlantique comme prévu la nuit dernière, mais ça ne devrait plus tarder, semble-t-il. Finalement, la Belgique accepte le CETA. C'est la fin du psychodrame. Bonjour Quentin Dickinson. Quentin Dickinson, êtes-vous avec nous à Bruxelles? Quentin Dickinson, pour nous expliquer comment le CETA a finalement été débloqué, peut-être un peu plus tard. Mais écoutez, on va attendre Quentin Dickinson et on va passer tout de suite à la colère des policiers. Va-t-elle s'éteindre? C'est la question. Avec les mesures essentiellement pratiques décidées hier par le gouvernement, cette vaste protestation peut-elle disparaître avec quelques centaines de millions d'euros consentis pour améliorer leurs conditions de travail? Pas facile de le savoir encore, tant cette protestation est multiforme et aussi, Nathalie Hernandez, portée par une base par définition non représentée.
En tout cas, Alain, il semble que l'heure soit à la concertation plutôt qu'à la manifestation. Hier, plusieurs des policiers présents devant l'Assemblée nationale nous ont expliqué qu'ils allaient désigner des représentants départementaux, en particulier sur l'Île-de-France. Ils souhaitent ensuite avoir un rendez-vous avec le ministère de l'Intérieur pour faire entendre leur voix et leurs revendications hors de toute organisation syndicale. Les moyens annoncés hier par le gouvernement seront sans nul doute bien accueillis, mais les policiers attendent maintenant de voir ces effets concrets. De plus, certains volets n'ont pas été abordés, que ce soit la gestion du management ou le déroulement de carrière, et leur attente à ce sujet est grande. L'un des porte-parole des policiers frondeurs, Robert Paturel, actuellement à l'étranger, a publié hier un message Facebook. L'ancien formateur du RAID pense que le mouvement des policiers en colère va s'apaiser doucement après les déclarations du ministre de l'Intérieur. Je n'ai même pas eu le temps d'aller pousser un coup de gueule. Maintenant, ce serait déplacé, écrit-il. Mais restons mobilisés quand même.
Merci Nathalie Hernandez. Allez, on a retrouvé Quentin Dickinson. Bonjour Quentin.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
On est évidemment impatients de savoir ce qui s'est passé pour que la situation se débloque tout à coup, outre Quiévrain, comme on dit, pour le traité Union Européenne-Canada.
Oui, c'est donc maintenant officiel. Les 5 entités fédérées et le gouvernement fédéral ont trouvé ce matin un accord sur une déclaration commune par laquelle la Belgique donne son feu vert pour signer le traité euro-canadien de libre-échange. Que l'on finirait par se mettre d'accord entre Belges, cela personne n'en doutait, mais la surprise du jour, c'est que l'on y soit parvenu en si peu de temps ce matin. Nombre d'observateurs penchaient plutôt pour quelques semaines de négociations intra-belges avant d'en arriver là. L'explication tient en fait en ceci, que les objections des élus wallons ayant été disséquées minutieusement depuis 15 jours, que le terrain ayant été labouré en tous sens, il n'existait tout simplement plus de points d'incertitude nouveaux qui auraient pu motiver une prolongation de la saga wallonne. Les élus du Parlement wallon étaient bien conscients qu'elle est au-delà, aurait fait clairement apparaître une volonté d'obstruction systématique qui aurait terni leur initiative.
Alors, il va se passer quoi maintenant, Quentin ?
Eh bien, le texte de la déclaration belge a été communiqué il y a 2 heures aux 28 ambassadeurs des pays de l'UE réunis à Bruxelles. Dans la foulée devraient disparaître les réserves exprimées par les Roumains et par les Bulgares qui souhaitent accélérer la suppression du régime des visas obligatoires imposés à leurs ressortissants qui souhaitent se rendre au Canada. Dans la foulée, une date devra être trouvée pour le sommet euro-canadien, initialement prévu pour aujourd'hui. Le plus vite, dit-on ici, serait le mieux puisque la signature du CETA permet la mise en œuvre partielle anticipée de celui-ci. Enfin, cet épisode wallon ne restera pas sans conséquences. Le Parti socialiste belge francophone en sort renforcé, c'était un peu l'idée, et il s'est trouvé un nouveau chef fortement médiatisable en la personne de Paul Magnette. Mais ces dernières semaines ont aussi cruellement mis en lumière les faiblesses des mécanismes de validation des décisions européennes.
Quentin Dickinson à Bruxelles. L'après-jungle de Calais, les gros travaux de déblaiement ont commencé ce matin. Les derniers cars partiront aujourd'hui avec des migrants volontaires vers les centres d'accueil, mais chacun sait bien que le problème n'est pas réglé, loin de là. On ne voit pas bien pourquoi le flux d'arrivée se tarirait. On y reviendra car les difficultés commencent. 200 à 400 personnes ont encore passé la nuit sur place. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Alain.
Thibault, on est passé désormais de l'humanitaire au sécuritaire.
How old are you? 17, of course. Hey, monsieur, excusez-moi, c'est un contrôle de police, s'il vous plaît. Vous pouvez reculer.
Depuis ce matin, la police sillonne ce qui reste de la jungle. Certaines parties du terrain sont désormais bloquées. Et derrière le cordon de sécurité, des engins de chantier et des contrôles d'identité. Jérémy est un bénévole de l'association L'Auberge des Migrants. Il a assisté ce matin à des interpellations.
On a vu les policiers se rendre en masse dans l'école des Dunes où quelques enfants étaient hébergés l'année dernière parce qu'ils n'avaient pas d'endroit où dormir. Et ensuite, ils les en ont mis un nombre, 5-6 à genoux et ils les ont embarqués dans des fourgons. J'ai une vidéo pour en témoigner si besoin. La loi dit que ça s'apprécie selon leur dire à eux. Donc si eux déclarent qu'ils sont mineurs. Mais là, en plus, visuellement, c'était évident.
Première sommation. On va faire usage de la force.
Face aux policiers, des dizaines de représentants associatifs, ils ont organisé ce matin une conférence de presse. L'objectif, dénoncer une opération qui n'a plus rien d'humanitaire selon eux. Au bout de quelques minutes, le rassemblement est dispersé. Amine Trouvé-Bagdouche est le coordinateur médecin du monde dans le Pas-de-Calais.
C'est un démantèlement humanitaire. Donc les humanitaires doivent être démantelés. On a tenté de nous instrumentaliser pour expliquer que c'était un démantèlement en communication très humanitaire. Nous dénonçons simplement ce qui s'est passé. Là, vous avez des CRS. Pour le coup, je pense que la communication prend un coup de l'État.
Un rire nerveux qui dissimule une tristesse sincère. Une dizaine de migrants opposés au départ en centre d'accueil et d'orientation seraient actuellement dans les locaux de la police aux frontières.
Thibault Lefebvre en direct de Calais avec Jean-Pierre Pernel. Les deux favoris de la primaire de droite et du centre sont en région PACA. Aujourd'hui, en fait, Alain Juppé avait prévu un meeting à Marseille. Mais en apprenant la venue de Nicolas Sarkozy dans la cité phocéenne, il a préféré, semble-t-il, ne pas tenter le concours d'applaudimètre dans une ville plutôt favorable à l'ex-président. Le maire de Bordeaux déploiera ses talents d'orateur à Toulon. Il s'est toutefois rendu ce matin dans les quartiers nord de la ville. Quant à Nicolas Sarkozy, il devait rendre visite ce matin à des policiers au commissariat du 4e arrondissement. Au micro de BFM TV ce matin, l'ex-président est en quelque sorte sorti du nini habituel en avouant en creux et sans le citer qu'il voterait Hollande si ce dernier devait affronter Marine Le Pen. Nicolas Sarkozy qui a dit également ne pas croire à la fable, c'est ce qu'il a dit, des électeurs de gauche qui voteraient à la primaire de droite. La gauche, tiens, parlons-en. François Hollande semble de plus en plus isolé. On a bien remarqué hier matin qu'à la question « Soutenez-vous toujours la candidature légitime du président actuel pour un prochain mandat ?» Manuel Valls n'a évidemment pas répondu non, mais désormais, plus franchement, oui. Et puis voilà une autre figure du PS qui semble s'éloigner du chef de l'État. C'est le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, qui hier après-midi a, semble-t-il, tenu à le faire remarquer physiquement en partant avant le discours de François Hollande au colloque sur François Mitterrand. Cyril Graziani.
Et le plus surprenant, ce n'est pas tant le départ de Bartolone avant l'arrivée du président au colloque, c'est surtout de le faire savoir aussi ostensiblement. La rupture entre les deux hommes, amis de 40 ans, est clairement consommée. Mais à l'Élysée, on considère qu'il n'y a pas de débat, on refuse de faire monter la sauce et on explique que ce départ précipité de Bartolone était prévu et que le président de la République savait que celui de l'Assemblée nationale n'assisterait pas à son discours. Fermez le banc donc. Pas tout à fait, car derrière cette querelle entre deux camarades se masque une vraie question politique. C'est la ligne de Claude Bartolone depuis quelques jours. Si dans son entourage on admet que pendant 48 heures, les révélations du livre de Davé et l'Homme, qui rapporte des propos durs du chef de l'État à son encontre, l'ont atteint personnellement, là c'est l'homme politique qui expose sa réflexion. Comment contrer la poussée de la droite et de l'extrême droite? Lui a déjà une réponse. Ça ne peut plus se faire avec François Hollande. Claude Bartolone, dont le dernier ouvrage s'intitule « Je ne me tairai plus », lit manifestement ses paroles à ses actes.
Comment redormir paisiblement dans sa maison lorsque, la veille, elle a tremblé sur ses bases? C'est, on n'en doute pas, la question que vont se poser ce soir des centaines d'Italiens qui ont eu le temps la nuit dernière de sortir in extremis de leurs habitations et qui ont senti passer, comme on dit, le vent du boulet dans les villages des Marches, encore traumatisés par le séisme d'août dernier qui, à quelques dizaines de kilomètres, avait fait 300 morts. La terre a tremblé vraiment très fort, les dégâts sont importants, mais on ne compte aucun mort. À Rome, Mathilde Imberti.
Vu la force des secousses, le bilan est miraculeux, a déclaré le ministre de l'Intérieur italien. Plusieurs dizaines de blessés légers à déplorer après ce nouveau tremblement de terre, mais pas de morts sous les décombres. Plus de peur que de mal pour Gregorio, gardien d'immeuble dans le nord de Rome.
Moi qui avais ressenti le tremblement de terre au mois d'août, je dirais que cette secousse a été encore plus forte. Les abat-jours se balançaient. Ma fille, qui était allongée sur son lit, a senti qu'il tremblait. Tout bougeait, tout. Vu les dégâts qu'il y a eu à Matrice, on a eu très peur, c'était terrifiant.
Bilan ce midi, des maisons, des édifices publics, quelques églises écroulées. Plusieurs centaines d'Italiens n'ont plus de toit. C'est le cas dans la petite commune de Visso. Le maire Giuliano Pazzalini.
Notre priorité a été de venir en secours à ceux qui ont dû quitter leur maison et qui se retrouvent dans les structures d'accueil. Dans les prochaines heures, il faudra monter des toilettes et des points cuisine temporaires. Selon nos estimations, 2/3 de notre patrimoine immobilier est désormais inaccessible.
Un cauchemar sans fin pour cette population des Apennins, déjà traumatisée par le séisme mortel du 24 août. Dans le village d'Ussita, 400 âmes, la Croix-Rouge a dû rouvrir le centre d'accueil qu'elle avait mis en place après le tremblement de terre de cet été. Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
C'est le prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de l'esprit. Il est remis chaque année à Strasbourg. Il a été décerné ce matin à 2 Irakiennes de la communauté yézidi et remis à Niavogel par Jean-Claude Juncker.
C'est des femmes yézides qui ont survécu, qui ont trouvé protection chez nous comme réfugiés, qui donnent leur témoignage contre l'impunité pour ceux qui ont commis ces atrocités et appellent aux institutions européennes et aussi au Parlement européen de mobiliser tous nos moyens disponibles dans la lutte contre Daesh.
En faisant ce choix, le Parlement européen décide aussi de ne pas créer de nouvelles tensions avec la Russie et la Turquie, puisque les deux autres nominés étaient Mustapha Djemelev, leader historique des Tatars de Crimée, député ukrainien, et le journaliste d'opposition turque Can Dündar, bête noire du président Erdogan, condamné à de la prison, victime d'une tentative d'assassinat. Il vit aujourd'hui en exil à Berlin. Strasbourg, Anya Vogel, France Inter.
C'est là aussi un combat, un 11e jour de grève à Itélé. À 11h30, tout à l'heure, les salariés de la chaîne d'info ont de nouveau reconduit le mouvement jusqu'à la même heure demain matin et à une large majorité, quoique plus faible que les jours précédents. Pour évoquer cette protestation, on a essentiellement parlé depuis le début du maintien de Jean-Marc Morandini à l'antenne. L'animateur est sous le coup d'une mise en examen pour corruption de mineurs aggravés. En fait, ce qu'il n'accepte pas non plus, c'est cette émission sur les médias, animée par un homme qui est complètement sous la coupe du propriétaire de la chaîne, Vincent Bolloré, et qui est là aussi pour vendre les produits du groupe. Bonjour Alexandre Hakoun.
Bonjour Alain.
Et certains évoquent le combat des journalistes d'Itélé comme celui des journalistes face aux industriels propriétaires de médias qui peuvent, de temps en temps, ne pas avoir l'indépendance comme credo.
Et concernant Vincent Bolloré, les exemples ne manquent pas. Il y a quelques mois, c'était la censure sur Canal+, d'un documentaire sur le Crédit Mutuel, partenaire du groupe Bolloré. Plus récemment, prenons l'accident de train au Cameroun qui a fait 80 morts. Eh bien, la société qui exploite la ligne ferroviaire est une filiale du groupe Bolloré. Eh bien, le journal, dont le milliardaire breton est propriétaire, Direct Matin, qu'il souhaite rapprocher d'ailleurs avec Itélé, a repris les dépêches de l'AFP sur le sujet en les débarrassant des passages sur Vincent Bolloré. Quant à la grève à Itélé, pas un mot dans Direct Matin. Pour Vincent Bolloré, l'information n'a qu'une raison d'être, servir les intérêts du groupe. À l'heure où de plus en plus de médias sont aux mains de grands industriels, l'exemple Bolloré pourrait-il faire des petits? Écoutez ce qu'en dit Patrick Evenot, il est le président de l'Observatoire de la déontologie de l'information.
jusqu'à présent, on voit bien que Patrick Drahi n'intervient absolument pas dans Libération ou l'Express, que le trio Berger-Pigasse-Niel n'intervient pas dans Le Monde ou dans l'Obs, parfois après coup, quand ils ont été mécontents d'un article, mais c'est après, donc c'est pas de la censure a priori. Donc il y a relativement peu d'intervention. Mais c'est un risque, effectivement, si l'exemple Bolloré arrive à triompher, les patrons vont se dire, bah, finalement, on a la possibilité de mettre les médias au pas et de faire en sorte qu'ils soient plus cléments avec nous.
D'où le nombre de soutiens d'autres rédactions aux grévistes d'ITélé. Des grévistes qui continuent à réclamer l'adoption d'une charte éthique garantissant leur indépendance et à qui leur directeur, Serge Nedjar, a répondu à ce sujet il y a quelques jours. Je ne sais même pas de quoi vous me parlez.
Alexandra Kuhn.
France Inter, le journal de 13h. Alain Passerelle.
C'est un indicateur de la santé du monde animal unique en son genre. Il sort tous les deux ans. Le WWF, le Fonds mondial pour la nature, a publié ce matin son rapport Planète vivante. En 40 ans, affirme ce rapport, nous avons perdu la moitié de nos populations d'animaux. Inutile de dire que ce constat est grave, Anne-Laure Barral.
On assiste à une sixième extinction de masse selon les bases de données scientifiques qui comptent plus de 3700 espèces animales sur 14 000 zones du globe. Elles vont chercher à savoir comment vont les éléphants d'Afrique, qu'ils soient au Kenya, en Tanzanie ou au Tchad. Globalement, leur situation est alarmante. Plus de 110 000 d'entre eux ont disparu ces 10 dernières années et il en resterait moins d'un demi-million. Mais des espèces moins emblématiques comme les dauphins d'Irrawaddy, pris dans les filets des pêcheurs, connaissent un déclin fulgurant. Les grenouilles ont décliné par endroits de 80%. La principale cause, c'est la main de l'homme qui bétonne les zones humides ou qui déforeste pour faire de grands champs de soja ou de palmiers à huile. Notre alimentation se base seulement sur 12 plantes, le blé, le riz, le maïs et 5 espèces animales qui laissent peu de place aux autres. Ce rapport fait dire au WWF que nous sommes entrés dans une nouvelle ère de l'histoire de la planète, celle de l'anthropocène. La majorité de la surface de la Terre a subi la transformation de l'homme.
Bonjour Pascal Canfin.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général du WWF France, et ce depuis presque un an. Je rappelle, si besoin, que vous avez démissionné en mars 2014 du gouvernement dans lequel vous étiez ministre délégué au développement, et vous étiez auparavant député européen, Europe Écologie des Verts. Un rapport qui nous dit que la planète va mal, un de plus, j'allais dire, que nous dit celui-ci de spécifique.
Quelle est sa valeur ajoutée? C'est un rapport scientifique qui décompte l'évolution du vivant animal depuis les années 70, qui est en fait fait par la Société Zoologique de Londres et qui a des points de capture de ces données dans 3000 endroits du monde. Qu'est-ce qu'il nous dit ce rapport? Eh bien que à l'échelle d'une demi-vie humaine, 40 ans, 58% de la totalité des animaux du monde ont disparu. Ça ne veut pas dire que 58% des espèces ont disparu. Mais là où il y avait 100 éléphants, il n'y en a plus que 42 en moyenne. Là où il y avait 100 papillons, il n'y en a plus que 42. Et quand on poursuit cette trajectoire, ce que fait ce rapport pour la première fois, en 2020, ce sera 2/3 du monde vivant animal qui aura disparu sur notre planète.
Avec les statistiques actuelles, avec le monde tel qu'il est.
Avec le monde tel qu'il est, et chacun peut le constater. On le voit sur les espèces iconiques du tigre, du panda, du rhinocéros, de l'éléphant, évidemment. Mais on le voit aussi à côté de chez nous. Les hirondelles dans nos villes, les moineaux, les grenouilles, les papillons, les abeilles. Demandez à la génération d'avant, qui a connu les années 60, 70, est-ce qu'il y en avait beaucoup plus? La réponse est systématiquement
on
oui.
On parle beaucoup d'oiseaux qui ne sont plus présents dans les campagnes, donc, surtout d'ailleurs.
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes en train, nous, humains, de détruire le capital naturel, de dévorer ce capital naturel à vitesse grand V, de manière jamais égalée dans l'histoire. Encore une fois, 40 ans, la moitié des animaux.
Alors pourquoi tout ça? Pour des raisons, on va pas faire de la politique ici, mais de démographie, comme le disait Nicolas Sarkozy, davantage que de...
Non, c'est pas d'abord, alors il y a évidemment un enjeu démographique, l'espèce humaine croît, quelques centaines de millions pendant très longtemps, puis quelques milliards, puis on évoque 9 milliards, 10 milliards au tournant du siècle. Mais au-delà de ça, il y a surtout nos modes de vie. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple de l'alimentation sur lequel ce rapport fait un focus particulier. L'essentiel de la première cause de très loin, la première cause de la déforestation des forêts tropicales, c'est l'alimentation humaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, les porcs, les poulets, les bœufs que nous mangeons, eh bien, sont largement alimentés de tourteaux de soja. Et ce soja, il pousse bien quelque part. Et où pousse-t-il ? En Argentine, au Brésil, dans d'autres pays latino-américains, à la place de la forêt amazonienne qui a été coupée. Et donc, ça veut dire qu'une partie de la solution réside dans notre propre acte au quotidien de dire, eh bien, je vais me poser la question. Je ne peux pas tout faire, mais ce que je peux faire, je vais le faire. Et l'alimentation, c'est universel. Il n'y a pas les pauvres et les riches et le nord et le sud. Tout le monde mange. Et tout le monde peut se dire, eh bien, aujourd'hui, je ne vais pas manger de viande. Je vais plutôt manger des pois, des légumineuses, des céréales qui sont beaucoup moins impactantes pour l'environnement.
Ce dont vous parlez là, c'est une préconisation essentielle d'après vous.
C'est une préconisation essentielle du rapport.
Devenir flexitarien, par exemple.
La préconisation essentielle, une des préconisations essentielles du rapport, c'est déjà que chacun prenne conscience de la réalité. Puis deuxièmement, que chacun se dise, il y a des choses que je ne peux pas faire, mais ce que je peux faire, je vais le faire. Et concrètement, très sincèrement, si chacun d'entre nous se disait « je mange une fois moins de viande dans la semaine », ça aurait un impact majeur sur notre empreinte écologique. Et c'est d'ailleurs déjà en train d'arriver. Et c'est la bonne nouvelle du rapport. C'est que lorsque l'on compare ce qu'on appelle l'empreinte écologique, c'est-à-dire l'impact que nous avons sur la planète, eh bien, cette empreinte écologique dans les pays développés, donc les pays européens, les États-Unis, le Japon, est en train de diminuer. Elle a par exemple diminué de 5% entre 2012 et 1985.
C'est un frémissement ou c'est quelque chose de signifiant?
Alors,
vraiment,
il y a un tout petit peu trop tôt pour le dire. Cette baisse de 5% sur 25 ans, c'est pas grand-chose. On est encore très 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 loin du niveau de soutenabilité. Il n'empêche que nous sommes peut-être en train de voir un point d'inflexion et de se dire, si finalement on mange moins de viande, ce qu'on fait en France depuis un certain nombre d'années, si on a des énergies renouvelables à la place des énergies fossiles, si on a des bâtiments plus isolés, si, etc., etc., eh bien, au final, on a le bout du tunnel et on est capable de revenir tout en inventant, évidemment, il ne s'agit pas de revenir dans le passé, il s'agit d'inventer une économie qui est soutenable, des modes de vie qui soient soutenables, mais on est peut-être en train de commencer à le faire. C'est la bonne nouvelle du rapport dans un état global qui malheureusement reste très alarmant.
Rapidement, parce que c'est énorme comme problème évidemment, est-ce que c'est pas aussi un rapport entre pays riches et pays pauvres? Il y a quelques jours un article du Monde qui parlait des gorilles du Rwanda et du Congo. Toute cette zone est protégée et quelqu'un disait c'est une injustice terrible pour les gens qui habitent ces contrées et qui sont pauvres de ne pas pouvoir exploiter la forêt. C'est ce qu'on a fait, nous.
C'est exactement pour ça que la doctrine du WWF partout dans le monde se dépeint de mettre sous cloche, c'est d'exploiter de manière soutenable pour trouver le bon équilibre entre ce qui est compatible avec les limites de la planète, et elles existent, on le voit sur le climat, on le voit sur l'océan, on le voit sur la forêt, et les nécessités de l'activité économique et de l'activité humaine. Donc il s'agit de réconcilier, et c'est ça finalement le grand sujet derrière ce rapport, c'est la grande réconciliation potentiel entre l'homme et la nature et la réconciliation nécessaire finalement entre l'homme et lui-même. Parce que quand on détruit notre capital naturel, on se détruit nous-mêmes.
En quelques secondes, vous êtes optimiste ?
Je suis réaliste. Ça veut dire que je vois toutes les limites, toutes les difficultés. Mais si j'étais pas optimiste et si j'étais pas déterminé, je ne serais pas à votre micro.
ce rapport, je suppose que c'est à lire sur
le site du WWF, bien évidemment.
Et c'est aussi sur le site de France Inter. Merci Pascal.
Merci à vous.
Toujours beaucoup de questions ce matin autour de l'enlèvement de Jacqueline Vérac, cette femme d'affaires niçoise de 76 ans, finalement retrouvée hier, ligotée dans une voiture stationnée au nord de la commune. Qui a fait le coup? Pourquoi était-elle là, sans surveillance? Cet épilogue est curieux. Dans ces cas-là, l'imagination vagabonde, on se fait un roman un peu policier dans sa tête, avec en fond de sombres affaires d'héritage. Bref, on en saura peut-être bientôt davantage. David Di Giacomo, 7 personnes sont ce matin en garde à vue.
Parmi les 7 suspects en garde à vue figure un certain Tintin, un paparazzi d'une quarantaine d'années reconverti en détective privé sur la Côte d'Azur. Au moins une personne dans l'entourage de Jacqueline Vérac est également entendue par la police judiciaire de Nice. Les gardés à vue sont pour la plupart niçois, ils ont de 20 à plus de 60 ans et certains sont déjà connus des services de police. D'après une source proche du dossier, il est probable que ce soit le même commanditaire qui ait déjà tenté d'enlever la riche septuagénaire niçoise en 2013. En revanche, les auteurs de l'enlèvement de cette semaine ne seraient pas les mêmes même qu'il y a 3 ans. Jacqueline Vérac a été libérée hier à midi sur les collines niçoises après avoir passé 48 heures dans un petit utilitaire et dans des conditions très rudes, bâillonnée et ligotée. David Di Giacomo, France Bleu Azur pour France Inter.
Ça a dû lui faire un bien fou à cette femme ukrainienne, détruire à coups de pieux la statue en cire de Vladimir Poutine. C'était en juin 2014, évidemment au musée Grévin. Elle a été condamnée pour dégradation en première instance, mais pas seulement. Cette destruction, elle l'a effectuée seins nus, comme une femme qui se respecte, et a donc été condamnée aussi pour exhibition sexuelle. Pas question d'en rester là. Ce matin, devant la cour d'appel parisienne, son avocate a déposé une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité sur ce sujet, car cette nudité revendiquée pour l'éphémène, Sarah Guibaudot, ce n'est pas l'exhibition, mais un geste politique.
Et ce n'est pas la même chose que lorsqu'un homme prend plaisir à choquer en exhibant ses parties génitales. L'avocat général en est tombé d'accord. Le simple fait de se dénuder au XXIe siècle peut difficilement être considéré comme un délit. Il souligne que la jurisprudence est ancienne. Il faut remonter à 1965 pour trouver une femme condamnée, explique Marie Dosé, l'avocate de la jeune ukrainienne.
On a une jeune femme qui fait du ping-pong sur la croisette de Cannes, qui est condamnée pour exhibition sexuelle, pour 35 francs, et 50 ans plus tard, l'éphémène. Et puis, qui va décider que la poitrine d'un homme, même quand il a plus de poitrine qu'une femme, n'est pas susceptible d'être poursuivi pour exhibition sexuelle lorsque il enlève le haut?
La jeune fémène souligne que ses camarades masculins, les homènes, ne sont pas poursuivis pour le fait de montrer leur poitrine. Il y aurait là une inégalité homme-femme. Depuis 2 ans, d'autres fémènes ont été jugées pour exhibition sexuelle, tantôt condamnées, tantôt relaxées. C'est que la définition de ce délit n'est pas claire, soutient l'avocat général. La cour d'appel de Paris dira le 10 novembre si elle juge cette question suffisamment sérieuse pour la transmettre à la cour de cassation.
Sarah Guibaudot, voilà d'autres corps rebelles. Corps rebelles, c'est le titre d'une expo au musée des Confluences à Lyon. Une immersion pour comprendre l'histoire de la danse contemporaine au XXe siècle. Elle s'adresse à la fois aux initiés et aussi au grand public. 90% de l'exposition est d'ailleurs constituée de vidéos. Stéphane Capron l'a vu.
Le corps est d'une extrême et fascinante complexité.
L'exposition est une déambulation dans l'histoire de la danse contemporaine. Le spectateur, muni d'un casque, navigue dans l'obscurité et s'arrête devant des vidéos conçues par la commissaire Agnès Izrine.
C'est une occasion exceptionnelle de voir beaucoup de danse. Avec le casque, c'est quand même extrêmement pratique. Ça permet d'être vraiment immergé dans la danse, dans ce mouvement, d'avoir cette expérience finalement au plus près du corps des danseurs.
La danse virtuose, la danse politique, la danse populaire, chaque arrêt permet de comprendre l'approche des chorégraphes. L'exposition rend hommage à l'un des grands ballets du XXe siècle, le Sacre du Printemps, créé en 1913 par Nijinsky. Plus de 250 réinterprétations dans le monde. Agnès Izrine en a choisi 8. On les regarde dans un espace circulaire.
Ça montre aussi à quel point, à partir d'une même œuvre musicale, on peut l'interpréter de 8 façons différentes, en réalité 200 façons différentes. À chaque fois qu'il y a un Sacre du Printemps, c'est l'expression très personnelle, très singulière d'un chorégraphe. Et à chaque fois qu'un chorégraphe reprend cette œuvre, il lui donne son cachet personnel et donc le cachet de l'époque, forcément.
Lyon et la danse, c'est une grande histoire d'amour. D'ailleurs, la ville va transformer le musée Guimet en atelier de la danse. Ouverture prévue en 2020.
Corps rebelle au musée des Confluences à Lyon, c'est jusqu'au 5 mars 2017. Enfin, cette trompette-là vous dit-elle quelque chose ? Eh bien, c'est la trompette de Georges Jouvin. Évidemment, ce n'était pas celle de Chet Baker, ni celle actuelle de Paolo Fresu, mais dans les années 50 jusqu'aux années 90, il fut en quelque sorte le Verschuren de la trompette, le Franck Pourcel du piston. Georges Jouvin s'est éteint lundi à Saint-Cloud, on l'a appris aujourd'hui, il avait 93 ans. Il eut un immense succès international, 70 albums, 25 millions de disques vendus. On l'appelait d'ailleurs la trompette d'or, vous jugerez, et c'est sur elle que s'achève ce journal.